Hors champ, aujourd'hui avec Oad Naharin. Oad Naharin, vous êtes chorégraphe. On vous connaît en France parce qu'on vous a vu depuis longtemps à la fois au Festival de danse de Montpellier, mais aussi au Théâtre de Chaillot, ainsi qu'à l'Opéra Garnier, et ce depuis une bonne quinzaine d'années. Vous avez à votre actif trentaine au moins de chorégraphies qui sont données sur toutes les scènes internationales. Vous avez inventé une méthode, on reviendra sur cette méthode. La première question que je voulais vous poser, c'était qu'est-ce qu'un corps pour vous ?
Je ne chercherai pas à répondre à cette question, mais je sais que moi, ce n'est pas mon corps. Mais j'écoute mon corps. Et cette écoute m'est excessivement importante.
Le corps pour moi,
ça vient avant de penser à la forme, le sentiment. Pour moi, le corps, c'est quelque chose que je ressens. Moi, je danse sans miroir. Je ne permets pas l'existence de miroir pendant que nous travaillons les danses. Donc mon corps est véritablement lié beaucoup moins à la forme, parce que, bon, je suis chorégraphe, bien sûr, mais c'est ma proposition la plus forte, mais elle ne parvient que par l'écoute du monde des sentiments. Et à travers cela, je connais mon corps. Les corps de mes danseurs, même quand je les regarde, je regarde tout d'abord comment ils écoutent leur corps. Non, avant que l'on dise au corps quoi faire, moi j'attends d'eux qu'ils aient une écoute. Et cette écoute est liée à la façon dont notre corps rencontre, par exemple, l'autre. Comment il rencontre l'espace. C'est, par exemple, le plaisir, c'est l'effort, c'est la force qui explose, c'est la finesse, c'est la rapidité. C'est ainsi que je me relie au corps. C'est lié énormément au flux. Et aussi au poids, mais je ne veux pas dire le poids trop gros ou trop maigre, mais dans cette notion que la gravité, c'est une force extrêmement importante. Il faut l'écouter, cette force. Et le mouvement de mon corps est lié à la façon dont je sublime la gravité au sein de mon mouvement instinctif.
On n'a qu'un corps, et pourtant, est-ce qu'on n'a pas plusieurs corps au cours de notre existence ?
Je pense effectivement qu'on n'a qu'un seul corps. Je me sens beaucoup et nombreuses personnes au sein d'un même corps.
Et vous avez la possibilité d'exprimer toutes les personnes que vous avez à l'intérieur de votre corps. Et vous avez, vous, la mémoire de l'enfance de votre corps.
Quand je dis que je ressens que je suis nombreux, ce n'est pas quelque chose de chronologique, mais c'est instantané. À l'instant T, maintenant, je suis un groupe au sein d'un même corps. Et ma responsabilité, c'est que ce groupe fonctionne ensemble, qu'il n'y ait pas de conflit, mais que ce groupe soit en dialogue.
On comprend, grâce au film qui est sorti et qui restitue votre histoire, qui s'intitule Mister Gaga, du nom de la méthode que vous avez inventée, sur laquelle nous reviendrons, on comprend que ce n'est pas la danse que vous avez choisie, ni même la chorégraphie. Vous vous destinez à autre chose, mais que vous avez été en quelque sorte contraint par votre nature profonde de faire de la danse. Pourquoi, à votre avis ?
Pourquoi vous dites ça?
Vous auriez pu faire beaucoup d'autres disciplines artistiques.
Bien sûr, là, il est une question de choix. Depuis que j'ai un souvenir de moi-même, j'ai eu beaucoup de plaisir du mouvement, j'ai eu du plaisir de la composition, l'idée de créer une forme qui soit le résultat d'une sublimation de sentiments. Ça m'a toujours intéressé. Le sentiment que j'apprends quelque chose, depuis que j'ai des souvenirs, ça a toujours été lié à des sentiments, à des sensations physiques. Mon lien avec le monde a toujours été lié aux sensations physiques. On n'est pas obligé d'appeler ça de la danse, mais lorsque la danse est apparue dans ma vie, dans la partie, disons, formelle, l'apprentissage de la danse, chorégraphier en tant que danseur, créer, c'était quelque chose d'extrêmement naturel pour moi. De mon point de vue, c'était une décision extrêmement facile, liée probablement au fait que je suis assez paresseux.
Vous avez appris la danse, puis vous êtes parti à New York perfectionner ce travail de danseur, auprès de Martha Graham notamment. À partir de quand avez-vous compris que vous pouviez aller de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire non seulement être danseur, mais aussi être chorégraphe?
Je ne me souviens pas d'un instant tel que celui-là. Je me souviens plutôt que le fantasme et même les rêves que j'avais de jour et de nuit étaient souvent liés à des créations que je faisais ou des scènes de danse, même avant d'avoir commencé moi-même à danser. Même aujourd'hui, la chorégraphie, la création vient me rencontrer. C'est lié à une sorte de méditation. Les idées, l'atmosphère, les sensations viennent à moi. Elles sont toujours venues à moi. Et il y a eu une étape où les fantasmes, ce n'est pas resté un fantasme, c'est devenu quelque chose de concret, de matériel que j'ai créé.
À partir de quand vous avez compris que, en dehors d'être chorégraphe et de pouvoir faire vos créations, vous alliez, au fur et à mesure des années, construire un système qui allait finalement déconstruire la grammaire syntaxique de la danse? Et donc, vous avez eu, dans votre itinéraire, à déconstruire ce que vous saviez pour pouvoir rendre compte de ce qui était au plus profond de vous-même. Est-ce qu'il y a eu des étapes dans ce travail de déconstruction, puis de reconstruction, qui finalement était peut-être la construction de vous-même?
Dès le début, quand j'ai commencé à créer, j'ai tout de suite été contraint de trouver une langue pour pouvoir me relier avec les danseurs avec lesquels je travaillais. Et j'étais un peu muet, je ne savais pas comment leur parler. Et c'était très conflictuel à cause de cela. Et cette recherche de la langue est devenue extrêmement importante pour trouver cette langue.
Et
c'était moins de renoncer à ce que je savais, parce que je ne savais pas beaucoup, mais c'était plus cette expérience de l'apprentissage, de l'acquisition des outils, de la découverte, de briser les frontières connues au quotidien pour pouvoir aider mes danseurs à faire la même chose. Et c'est ce qui se produit jusqu'à présent. Ces découvertes, ce sentiment que je suis toujours en apprentissage, c'est toujours plus fort que ce ne l'a été naguère.
Alors, il y a le corps, il y a l'enveloppe corporelle, et puis, il y a la perception que nous avons de notre propre corps, qui ne correspond pas à la réalité de ce corps que nous avons et auquel nous pensons très très peu. Est-ce que votre fameuse méthode n'a pas été finalement d'essayer de faire coïncider ce corps que nous habitons, ou qui nous habite, d'ailleurs quelquefois à notre insu, avec la réalité de ce que nous sommes. Et par quelle méthode avez-vous fait ? Est-ce que c'était l'introspection ? Est-ce que c'était la psychanalyse ? Est-ce que c'était la philosophie ? Est-ce que c'était la méditation ?
הרעיון שאנשים חיים באשליה של מציאות.
Cette idée que les gens vivent dans une illusion de la réalité, qu'il y a un gouffre entre la réalité et la façon dont ils l'aperçoivent, c'est pas lié simplement au corps, c'est simplement dans la façon dont nous concevons le monde, dont nous percevons le monde. Et beaucoup des problèmes, beaucoup des erreurs, des grossièretés, de l'excès de violence, le manque de possibilité d'identification et du fait que nous n'abandonnons pas nos idées, même si c'est des idées fausses, c'est lié à cet écart, à ce fossé entre notre perception de la réalité et la réalité elle-même. Je pense que par l'écoute du corps, justement, avant de lui ordonner de faire quoi que ce soit, on peut diminuer ce fossé, on peut refermer ce fossé. C'est lié aux petits gestes, à la finesse, aux sentiments. C'est des choses qui doivent être véritablement dans le cœur, au cœur de ce que nous faisons. Cette possibilité qu'on a de rire de soi-même, par exemple. L'idée de pouvoir se défaire de quelque chose, d'abandonner, de renoncer, de reconnaître que nous sommes faibles, de reconnaître que nous sommes loin, loin, loin d'être complets, eh bien, cela peut créer des instants merveilleux. Eh bien, tout cela, ce sont des outils pour pouvoir relier notre sentiment de la réalité avec ce qui se passe réellement. Et véritablement, pour un danseur, cette façon de savoir, cette connaissance de ce qu'est notre corps et de ce qu'il ressent, c'est une des choses les plus importantes qui soit. Cette conscience.
Avec vous, chacun d'entre nous peut danser parce que la danse appartient de façon consubstantielle à l'espèce humaine et parce que depuis qu'on est tout petit, on danse et puis après on oublie qu'on a su danser.
Oui, évidemment, tout le monde peut danser. Parce que danser, ce n'est pas se produire. Comme je l'ai dit, danser, c'est... Même pour danser, on n'a pas besoin de beaucoup de choses, on n'a même pas besoin de musique. Il faut simplement du temps et un espace. Et on peut le faire à la maison, on peut le faire dans n'importe quel endroit. Et l'idée d'écouter le corps, qui est lié donc au groove, à cette force qui explose, à sentir la gravité du corps, sentir quel animal on est soi-même. Pour cela, il n'est pas nécessaire d'avoir l'ambition de monter sur scène ou même d'être danseur. Vous et moi, nous pouvons danser.
Ah, vous, oui, c'est sûr. Un corps, même quand il ne parle pas, il fait beaucoup de bruit, non ?
Si le corps fait beaucoup de bruit, expliquez-moi ce que vous voulez dire par faire du bruit.
Eh ben, il produit beaucoup de sons, on ne veut pas les entendre. Mais il produit beaucoup de sons. Et j'ai l'impression que votre méthode, Oad Naharin, c'est d'essayer de nous pacifier nous-mêmes avec notre propre corps, d'essayer de l'écouter, de baisser les défenses, de se défaire de tous les impératifs occidentaux sur le corps. Et si j'ose dire, il y a une expression en français, je ne sais pas si elle existe en hébreu, d'essayer de faire corps avec soi-même, non ?
Je ne suis pas certain de comprendre parfaitement votre façon de penser, façon de voir. Ce que je peux dire, c'est que nous avons beaucoup de choses qui nous empêchent de faire les choses dans notre corps. Quand regardez un enfant, par exemple, qui bouge, il y a beaucoup d'écho dans son mouvement. Il bouge, mais nous, quand nous grandissons, On économise de plus en plus. On se met des barrières, on se met des limites.
Et
même des gens très capables, ceux qui sont des athlètes olympiques, ils ont beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas réaliser dans leur corps. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui confondent la puissance du corps avec le machisme. Et la danse, c'est exactement l'inverse de cette force-là. Je pense que le corps, c'est quelque chose qui peut énormément exprimer les excès. Il peut exprimer la joie. Mais ce qui est important, c'est ce flux d'énergie. Et non pas limiter l'énergie, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Et ce n'est pas quelque chose qui remplace l'échec, par exemple. Et si on veut mettre une limite à quelque chose, que ce soit véritablement une décision consciente. Et c'est ce qui permet, je ne sais pas si c'est pour un seul corps, mais qui permet un accord entre nous tous sur la façon dont on peut, par exemple, utiliser le corps. C'est une source, par exemple, de ce qui peut nous guérir.
Est-ce que savoir danser, c'est savoir s'abandonner ?
Oui.
Je ne sais pas comment on traduit ce mot, d'ailleurs. Se livrer, to let go. C'est pas exactement to let go.
C'est
aussi le fait que c'est se donner. Oui, effectivement, c'est se lâcher, c'est important. S'abandonner. Une sorte de préférence, une sorte de priorité. Laisser la priorité.
Où on comprend que
finalement on n'est jamais au centre des choses. On comprend que les choses, en général, elles n'ont pas de centre. Le monde n'a pas de centre.
En tout cas, vous êtes un chorégraphe reconnu sur le plan international, directeur d'une très grande compagnie donc basée en Israël. Et quand on voit vos chorégraphies, on se dit que vous êtes à la fois un philosophe du corps et qu'en même temps, ce que vous inventez fait appel au savoir-faire extraordinaire du corps, et pas seulement dans les solos, mais dans la communauté des danseurs. Vous demandez à vos danseurs de savoir faire la même chose en même temps. Pourquoi ?
Vous
parlez de l'unisson, c'est ça, lorsque tous bougent ensemble. Parfois, j'utilise cette idée de tout faire en même temps, faire les mouvements en même temps, mais dans ma dernière œuvre, comme dans toute œuvre, je crée des règles, des lois au début du processus auxquelles nous essayons d'obéir et que parfois nous transgressons. Et une des règles, c'était que ne bougez jamais ensemble. Et lorsque nous bougeons ensemble,
C'est
quelque chose de lié à la composition, à la façon dont j'organise les choses, de mon amour aux rituels, aux répétitions, aux itérations. C'est lié au volume. C'est lié au lien que je sens entre les éléments. Au lien du plaisir et de l'effort. C'est une chose qui parfois me remplit de bouger ensemble avec quelqu'un et de créer ces instants au sein de l'œuvre. Le point, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de différence pour le danseur s'il bouge seul ou s'il bouge à l'unisson avec d'autres. Parce que ce qu'il écoute, quand il bouge, quand il bouge seul, ça ressemble énormément, c'est très semblable à ce qu'il entend quand il bouge avec quelqu'un d'autre. Et même quand il danse, les raisons sont vraiment très les mêmes. Et donc la différence est esthétique, dans la composition, dans l'idée, dans l'atmosphère de l'œuvre.
Vous faites une danse très épurée, très intense, qui atteint beaucoup les spectateurs qui vous regardent. Vous ne faites pas appel aux décors sophistiqués, ostentatoires, etc. Comment vous considérez-vous par rapport à Pina Bausch ?
Je ne me compare pas à Pina Bausch. Je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup appris d'elle. Je sens que j'ai beaucoup de choses en commun avec Pina Bausch, principalement dans l'idée que elle a toujours fait de la recherche, dans cette recherche de la sublimation, le comportement, le ressenti, la joie, le sexe. Comment elle a transformé ces choses-là en quelque chose qui est lié en une forme claire, une composition, une proposition qui est liée à un événement. Un événement, une représentation, ça m'a toujours enchanté, chez Pina Bausch, ça m'a toujours intéressé.
Quelle est la place de la musique à l'intérieur de votre invention chorégraphique ? Vous pouvez travailler sur des musiques contemporaines, comme faire des créations, comme celles que vous avez faites il y a quelques années, à partir des variations Goldberg. Comment s'opère ce choix ? Et est-ce que le rythme, est-ce que la pulsation que vous allez indiquer en tant que chorégraphe va déterminer le choix de la musique ?
Vous savez, comme je l'ai dit, pour danser, on n'a pas besoin de musique. J'ai rencontré la musique dans ma vie avant de rencontrer la danse. J'ai appris la musique bien avant d'apprendre à danser. Et la musique dans mes œuvres, ben ça a une importance. Et en parallèle, il m'est très facile de voir cette même danse. Et d'ailleurs, dans le processus, je change dans le processus beaucoup de fois la musique. La musique, c'est un peu comme la décision de « Bah tiens, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais porter comme vêtement aujourd'hui ?» Et la musique, pour moi, c'est quelque chose qui symbolise le temps, quelque chose de lié à l'atmosphère, qui aide à créer cette atmosphère, quelque chose qui peut déterminer l'atmosphère de travail. Et c'est très lié au jeu du processus. Et ce jeu dans lequel moi-même, les danseurs et tous ceux qui sont liés à ce processus tombent d'accord pour jouer ensemble et ne pas se prendre trop au sérieux. Mais prendre au sérieux ce que l'on est en train de faire et le prendre très très au sérieux d'ailleurs. Et la musique à ce moment-là devient un élément additionnel. Et toute l'idée de la composition, c'est donc le jeu, de la façon dont on relie et on crée la bonne tension et on met en place tous ces éléments.
Votre compagnie est basée en Israël, vous êtes né en Israël, votre compagnie représente souvent Israël, et pourtant, Ouad Naharin, à la fois dans votre propre pays, vous pouvez subir des tentatives de censure et vous y répondez fort courageusement. Et quand vous vous produisez dans certains pays européens, et ça vous est arrivé il n'y a pas si longtemps en France, eh bien on considère que vous êtes l'émissaire de la politique actuelle du gouvernement israélien. Or, on vient d'apprendre que le gouvernement israélien avait encore durci sa politique avec l'arrivée d'un nouveau ministre dans cette coalition. Que pensez-vous de la nature de l'État d'Israël et pensez-vous que cet État peut un jour devenir véritablement raciste, comme vous l'avez déclaré?
Vous savez, il y a beaucoup de racisme, de types de racisme en Israël. Il y a beaucoup de racisme dans le monde, il y a beaucoup de racisme en France. Je ne pense pas qu'il y ait en Israël plus de racisme qu'il y en ait en France, par exemple. Mais ce qu'il y a en Israël, il y a une occupation. Il y a une situation qui se poursuit et qui va durer bientôt 50 ans. Et cette situation où Israël occupe un autre peuple, c'est unique à Israël, ça, et c'est le résultat d'une chaîne d'erreurs de ceux qui dirigent notre pays. Et à mon grand regret, aussi de ceux qui habitent dans ce pays, parce que ceux qui habitent dans ce pays, ce sont eux qui élisent ceux qui les dirigent. C'est une situation qui est insupportable, et il est très clair qu'elle va, il va avoir un terme. Bibi Netanyahou aura son propre terme, Lieberman aussi aura son propre terme. Bon, nous aussi, on aura notre propre terme.
Pourquoi, dernière question, Oad Naharin, pourquoi votre méthode, puisqu'on vous appelle Mister Gaga, pourquoi votre méthode obtient-elle autant de succès dans le monde entier et pourquoi n'est-elle pas encore enseignée en France?
Cela prend beaucoup de temps de former un enseignant. Et donc pour l'instant, dans le monde entier, nous n'avons que 60 formateurs. Gaga. Mais si vous êtes un peu patiente, vous pourrez bientôt apprendre aussi Gaga en France. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va venir.
Ben, merci beaucoup, Mister Gaga. Nous sommes toutes et tous Gaga, de Mister Gaga. Merci, Oad Naharin. Vous venez quand pour montrer votre prochaine chorégraphie en France?
Je suis en négociation avec Aurélie Dupont. Je pense que ce sera en 2018.
Ben, on vous attend. Et on espère que des Mister Gaga nous enseigneront la méthode Gaga avant.
Mais la Batsheva Dance Company, en 2017, nous serons ici au Palais de Chaillot.
Ben, merci beaucoup, Oad Naharin. Et je rappelle qu'un film restituant votre histoire, votre parcours, votre itinéraire et aussi votre méthode vient de sortir en France. Il s'intitule Mister Gaga et il est signé de Tomer Eman. Merci aussi à Nicolas Desmas. Merci à Michel Zlotowski qui a assuré cette traduction simultanée. Merci à Corinne Amar, Élodie Royer, Samuel Bernard et Anne Kobilac. Vous écoutez France Culture. Vive les Gagas!